Je vais vous parler de la guérilla gardening. Donc, j'ai écrit trois noms au tableau. Ça s'appelle aussi Green Guérilla, jardin pirate, guérilla potagère. En fait, ça a plusieurs noms selon les villes, les contextes qu'il peut y avoir au cours des siècles, par exemple. Donc ça, je vais vous parler un peu des histoires qu'il y a eu autour du mouvement de guérilla gardening et vous illustrer avec quelques actions qu'on a fait et d'autres actions qui ont lieu un peu partout en France. Donc je m'appelle Gabi, je suis fondateur, on va dire, du groupe Guérilla Gardening France. Disons qu'on a lancé plutôt un réseau pour rassembler des gens qui faisaient des actions de jardinage urbain de type guérilla gardening partout en France il y a 7-8 ans, et depuis on fait nous surtout des actions sur Paris, mais on relaie un petit peu les informations qu'il peut y avoir sur d'autres actions un peu partout en France. Je me suis mis à faire des actions de guérilla gardening déjà sur plusieurs bases. La première, c'est que j'habitais à Paris et qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'espace pour jardiner. Les jardins partagés sont vraiment très remplis. Dans certains jardins, il y a des listes d'attente. Il y a des fois, on se retrouve avec 1 mètre carré à se partager à plusieurs, etc. Donc c'était un format qui me correspondait pas spécialement. J'ai une formation de jardinier assez classique, jardinier, donc avec toutes ces images qu'on peut voir de jardins qui, pareil, ne me parlaient pas forcément. C'était des jardins souvent assez propres, avec assez design, etc. Pas forcément écologiques, où on nous apprenait pas forcément toutes les manières de jardiner comme je l'aurais voulu. Et en fait, j'ai fait pas mal de recherches sur comment est-ce qu'on pouvait jardiner différemment, comment d'autres mouvements se sont mis à jardiner de manière un petit peu en faisant plus attention à l'existant, par exemple, sur les jardins. Et avec le temps, là, du coup, on a monté un collectif qui s'appelle Les Jardiniers à Vélo. Donc aujourd'hui, c'est ma profession, je suis jardinier à vélo sur Paris. Et aussi, on est en train de monter une pépinière de quartier, plusieurs pépinières de quartier pour produire des végétaux sur Paris avec les habitants. Donc en fait, tout ça, c'est pour dire aussi qu'on peut aussi, ne serait-ce qu'à travers notre travail et notre façon de faire les choses, de faire évoluer à la fois un métier ou de faire... ou de s'impliquer personnellement, d'impliquer un peu nos valeurs, et que c'est pas forcément juste un hobby qu'on fait à côté du travail de pouvoir parler d'écologie. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut aussi intégrer dans notre quotidien. Ensuite, moi, j'ai entendu parler de la guérilla gardening, donc autour de 2005, quelque chose comme ça, en lisant des articles sur une certaine Liz Christie. Liz Christie, elle était artiste à New York dans les années 70, et en fait, c'est elle qui a inventé le mot green guérilla, enfin elle et des amis à elle. Et en fait, c'était à l'époque où la ville était... Il y avait beaucoup de bâtiments abandonnés, des terrains en friche. Les propriétaires mettaient le feu au terrain pour toucher les assurances, etc. Et en fait, face à cette ville qui devenait de plus en plus délaissée, ils se sont dit que ce qu'on pourrait y faire, et c'est là où ils se sont mis à jardiner. Ils ont appelé ça Green Guérilla parce qu'ils le faisaient en petits groupes et ils s'attaquaient sur plusieurs terrains comme ça. Ils ont créé les premiers jardins partagés qu'on connaît, nous, maintenant en France. Et aussi, une des choses intéressantes, c'est que l'un de leurs jardins existe encore aujourd'hui. Et aussi, ça montrait aussi le côté, voilà, c'est la green guérilla, les actions de jardinage comme ça, même illégales sur des terrains pour les occuper, faire des jardins, ça peut marcher et ça peut perdurer. Et du coup, ça nous a aussi motivés à se dire, on peut le faire aussi. Juste un petit mot, les premières green guérilla, ils utilisaient aussi ce qu'on appelle les bombes de graines. Donc c'est une espèce de... C'est une bombe, c'est un mélange d'argile et de terre avec des graines à l'intérieur que Liz Christie et ses amis, ils envoyaient au-dessus des barrières pour végétaliser, pour faire des jardins de l'autre côté des barrières quand ils ne pouvaient pas atteindre ou traverser, passer les barrières. Et cette technique de bombe de graines, elle a été inventée par un certain Masanobu Fukuoka, qui est le père un peu de l'agriculture naturelle. Du coup, voilà, ça c'est bon, voilà, pour illustrer un petit peu, c'est en gros on repère des petits endroits et on envoie une petite bombe de graines pour semer. Et en fait, cette technique, elle a vachement été mise en avant aussi par un certain Richard Reynolds, qui, à peu près en même temps que le mouvement commençait à Paris, lui a commencé à faire de la communication sur le mouvement international et à mettre en relation des gens dans le monde entier. Il a voyagé pas mal pour faire des recherches. Donc, il a lancé un site internet qui s'appelle guerillagardening.org. Et puis du coup on est rentré en contact et il a donné beaucoup d'informations sur comment jardiner voilà. Bon, ça c'est un des jardins qu'ils ont fait par exemple à Londres, donc des jardins comme ça il y en a maintenant je crois qu'il y en a une vingtaine un peu de ce type là à Londres. Mais en fait, moi personnellement, quand je suis allé les voir, c'est pas des jardins qui m'ont non plus beaucoup parlé. Je revoyais beaucoup ce que j'avais vu à l'école, des jardins pareils avec des plantes très ornementales, etc. Et c'était pas forcément ce que j'avais envie de pratiquer. Je pense qu'on avait une vision aussi différente de ce qu'est le jardinage en milieu urbain. Voilà. Mais en fait, on a commencé à faire des jardins un peu plus sauvages. Qui tombe très bien avec le thème de la conférence, en sachant que déjà on travaille beaucoup avec les plantes qui sont existantes, c'est-à-dire que c'est un jardinage où on laisse beaucoup de place à ce qu'on appelle les mauvaises herbes pour les remettre en valeur et leur dire que ça peut être des bonnes plantes. Donc on fait notamment du repérage de plantes, on apprend les gens à les reconnaître, à les manger par exemple, et on essaye de jardiner autour de ces plantes-là pour créer les jardins. Voilà, ça c'est bon, un peu les étapes pour se lancer. En fait, c'est assez simple. Ce qu'on a voulu aussi, c'est pouvoir faire des actions où il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'outils, d'acheter des plantes comme pouvait le faire Richard Reynolds. Et en fait, avec très peu de graines, avec la récupération, là par exemple, c'est des plantes, la plupart qu'on a récupérées qui sont devant moi. On peut très bien jardiner avec très peu de moyens, et c'est quelque chose qu'on voulait vraiment mettre en valeur pour que tout le monde puisse participer un maximum. Donc c'est un peu ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est des techniques assez simples, des jardins, des petits jardins, on va dire, vraiment reproductibles. Une des choses qu'on a fait, c'est notamment de récupérer aussi beaucoup de plantes. Et on a aussi, on a un peu travaillé notre regard sur la ville aussi, à savoir, on n'avait pas forcément l'habitude, on avait plutôt l'habitude d'avoir des terrains qui étaient mis à disposition par des clients ou ce genre de choses quand on fait des jardins. Et là, il y a quand même un regard un peu différent sur la ville à avoir, à se dire, est-ce que ce terrain-là, il est occupable rapidement? Est-ce qu'il est assez grand pour faire un jardin? Quel type de jardin on peut faire? Donc, il y a quand même un regard à avoir sur la ville qui a changé grâce à ça. Cette image, c'est une image en fait qui est, je crois que c'est près de Madrid, où c'est un terrain qui est abandonné par exemple par la commune, où ils voulaient construire un bâtiment, ça a été annulé. Du coup, c'est ce type de terrain que nous on peut occuper. Un autre terrain, là c'est au bord d'une route, en fait on voit pas, elle est au-dessus, mais et au bord de l'eau. C'est pour vous montrer des terrains assez atypiques qu'on peut occuper. Donc voilà, ça c'est les jardins de fissures, on appelle ça, c'est vraiment dans des toutes petites, ça peut vraiment être une graine de tournesol, peut très bien pousser là-dedans et donner quelques fleurs. Bon, après il y a les pieds d'arbres, c'est quelque chose d'assez classique à Paris, il y a énormément de gens qui jardinent au pied des arbres. Donc ça, on en a fait vraiment beaucoup et ça marche très bien auprès des habitants, parce que ce qui est intéressant dans les actions et quand on veut jardiner en ville, c'est de pouvoir aussi y aller assez rapidement et pas avoir à faire des kilomètres. Donc souvent, on jardine dans les quartiers où on habite, où on se retrouve dans les quartiers où on habite pour faire des jardins. Voilà, à droite, c'est sur une... C'est sur une bord de voie, donc c'est là on a fait une sorte de jardinière à partir d'une bordure de route de sécurité. À gauche, c'est plus pour vous montrer le type de mélange de graines qu'on arrive à faire. Donc là, il y a surtout des plantes aromatiques, des plantes comestibles et aussi des fleurs. Et en fait, c'est beaucoup des plantes aussi qui sur lesquelles on peut récupérer les graines aussi. Donc c'est quelque chose qu'on fait un maximum, c'est de laisser les plantes monter en graines pour que les gens puissent les récupérer. Pareil, donc on utilise des graines qui ne sont pas hybrides ou quoi, qui peuvent vraiment redonner des graines par derrière. Ça, c'est un autre artiste qui nous a aussi beaucoup inspirés. Il s'appelle Adam Purple. Il a lancé un jardin qui s'appelait le Jardin d'Éden. C'était en 75. C'est pareil, c'était à New York. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il a fait vraiment avec de la récup sur tous les bâtiments qui étaient en ruine. Sur, donc en fait, il faisait des murets tout autour du jardin. On peut voir tout le jardin était fait avec des pierres de chantier. Et il récupérait les plantes. Et il n'y avait aucune barrière non plus pour rendre le jardin accessible à tout le monde. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de faire un maximum, c'est de dire que les jardins qu'on fait, on les fait en petits groupes des fois avec des groupes plus larges, des fois souvent avec les gens du quartier autour les jardins qu'on fait. Mais surtout, c'est de se dire que les jardins, ils sont accessibles à tout le monde et qu'ils sont pas... Nous, on n'essaye pas de privatiser de l'espace pour se faire nos jardins à nous et faire pousser nos petits légumes. C'est vraiment des espaces où tout le monde peut venir jardiner quand il veut. On n'est pas en association, on n'a pas de liste de membres. Donc vraiment, si vous voyez des jardins un peu sauvages dans la rue ou quoi, n'hésitez pas à y participer aussi. Ça, c'est 2-3 petits exemples aussi de choses qui nous ont plu dans la ville, où on s'est dit on peut s'amuser aussi à transformer ça en petit jardin. À gauche, c'était un arrêt de bus qui a été retiré depuis, où on avait mis des iris dedans. Au milieu, c'était à côté du muret que je vous ai montré tout à l'heure. Les jardins, en fait, d'une année sur l'autre, repoussent aussi dedans. Il faut savoir qu'il y a plein de jardins qu'on abandonne avec le temps. C'est un peu l'objectif ultime, on va dire, de nos actions, c'est de se dire, une fois qu'il est autonome, le jardin, on n'y retourne plus. C'est-à-dire que les plantes, elles repoussent d'elles-mêmes, elles se ressèment. Il y a un certain équilibre qui se crée pour que le jardin, qu'on n'ait pas à y retourner. À droite, c'est ce qu'on appelle des chaussures plantées. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est des chaussures qu'on customise avec des plantes et qu'on accroche en hauteur. Là, il y en a une. La première, c'est en haut à droite, c'est en dessous d'une caméra. Il y en a une autre, c'est sur un lampadaire, mais on peut vraiment en mettre un peu partout. Ça, c'est plus vers Marseille, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est d'autres techniques assez simples. À Marseille, ils font énormément de poubelles aussi plantées, donc des grosses poubelles noires et qu'ils mettent au milieu de la rue avec des plantes dedans. Ils écrivent des messages sur les poubelles. D'autres petits installs, juste avec 3 bouts de bois, on peut faire des espèces de petites pyramides sur l'autour des poteaux. Et puis après, on fait aussi des tags en mousse. Bon, pareil, j'y reviendrai après, c'est un tag naturel, quoi, avec partir de mousse. Ça, c'est une autre action. Ça, c'est plus pour le petit clin d'œil sur... C'était un espace qui était abandonné depuis assez longtemps et où la mairie avait mis un panneau en disant qu'ici, ça poussait plus, que les gens étaient irrespectueux, incivils, qu'ils laissaient tomber. Enfin, bon, le truc assez moralisateur. Et en fait, du coup, nous, ça nous a donné envie de tenter le coup et de regarder ce qui n'avait pas marché pour réessayer. Et en fait, on a juste ramené un peu de compost et on a planté une vigne vierge. On a mis des panneaux en bois pour éviter que les gens mettent des encombrants, des choses dessus. Et maintenant, elle pousse encore. Là. Donc ça, c'était une photo il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Et maintenant, elle recouvre presque les panneaux de publicité. Donc ça aussi, c'est une petite victoire. La question, là je parle de publicité parce qu'on questionne l'espace public qui est l'espace qu'on vit au quotidien, où on se déplace, qu'on occupe, qu'on partage et qui est à chacun de nous. Et nous, on défend le fait que c'est un espace où on peut jardiner, que le jardinage, c'est un droit qu'on peut faire sans forcément avoir d'autorisation. Mais il y a aussi tout ce qui est espace public visuel, tout ce qui est espace, tout ce qui est sur le bien commun de la terre, de l'eau, de l'air, etc. J'y reviendrai aussi. Ça, c'est d'autres petites installs. C'était durant une journée qui s'appelle Parking Day. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une journée, en fait, une journée internationale aussi d'action, où l'idée, c'est d'occuper des places de parking pour y faire un peu ce qu'on veut et partager un moment dans la rue. Bon, dommage, ça ne dure qu'une journée dans l'année, mais disons que là, par exemple, nous, on y participe tous les ans. Et là, on avait sorti quelques modules qu'on a pu développer. Donc il y a par exemple, je vois plus très bien, il y a des télés qu'on retourne par exemple, où on met des plantes dedans, donc ça on a appelé ça les cultures télévisuelles, on a fait des toilettes avec des plantes dedans, enfin vraiment tout ce qu'on peut récupérer dans la rue, y faire quelque chose, on essaye de trouver quelque chose de marrant à faire dedans. Ça, juste un petit mot, c'était l'atelier C'est Pointé, donc on voit sur la photo du milieu, c'est un lieu où on a été pendant plusieurs années et qui nous a servi pour préparer beaucoup d'actions, expérimenter beaucoup de choses, surtout au début des actions à Paris. Et en fait, ce jardin-là a été détruit par la ville. Ils ont tout rasé et ils vont. Donc voilà, alors que derrière, on avait fait effectivement tout un jardin, où il y avait un compost pour que les gens puissent venir mettre leurs épluchures, il y avait des arbres fruitiers, on avait retiré toutes les dalles du parking pour faire revenir de la terre. Donc ça, j'y reviendrai sur les jardins qui disparaissent aussi, il y en a beaucoup. En parlant de ça, je vous parlais juste en deux, trois mots des People's Park, qui est aussi un mouvement en quelque sorte qui peut beaucoup parler. Alors là, c'est à Berkeley, donc en Californie. Les People's Park, c'est un groupe d'étudiants et de gens qui habitaient tout autour, qui se sont mobilisés contre la destruction d'un parc qu'ils avaient fait à l'intérieur d'un terrain qui était la municipalité, si je me rappelle bien. Et en fait, ils se sont fait virer par la municipalité. Et du coup, ils ont voulu revenir. Ils ont fait comme ça des actions pendant des années où ils se faisaient déloger. Ils revenaient, ils faisaient des parcs pour les enfants. Une autre fois, ils faisaient des vergers. Une autre fois, ils retiraient tout le parking pour refaire des jardins. Et à chaque fois comme ça, la lutte a grossi. Il y a eu plein d'autres événements historiques qui ont fait qu'ils sont mobilisés avec de plus en plus de monde. Ça a eu une répercussion vraiment très large. Donc c'est aussi pour dire que le jardin peut être aussi un vecteur de mobilisation et d'action et d'inspiration pour d'autres personnes. Voilà, et juste, il y a le parc, en gros, il existe encore aujourd'hui, en tout cas en partie. Donc encore une sorte de victoire sur ces jardins en lutte. Mais en fait, ça, c'est pas toujours le cas aujourd'hui. Il y a les jardins d'Utopie à Grenoble, qui sont des jardins, pareil, dans une fac. Donc le parallèle se voit assez bien. Mais en fait, là, ce jardin, il a été détruit au mois de février, là. C'était tout un jardin qui avait été fait par les étudiants depuis 3-4 ans. Et tout a été... ils sont passés le bulldozer dessus. Ils ont eu des risques d'amende assez importants, de 500 à 1000 euros si quelqu'un venait avec un outil sur le site pour jardiner. Ils avaient l'obligation de remettre en état si quelque chose, par exemple s'ils faisaient un trou dans le gazon, ils devaient remettre en état comme c'était avant. Et en fait, là, ils recommencent à faire des actions pour réoccuper d'autres espaces de gazon, de pelouse. La fac est immense et il y a largement moyen de faire un petit potager, mais la fac a voulu tout raser. Enfin bon, je leur souhaite une bonne continuation. Un autre jardin, ça c'est les Pandars jardiniers, qui l'an dernier ont commencé, il y a un ou deux ans, ont commencé un jardin à Lyon. Et pareil, là ils se sont fait virer du site. Et la police a même mis en place des caméras de surveillance dans tout le quartier pour surveiller s'il n'y avait pas des jardiniers qui venaient réoccuper le lieu. Il y a Rurban aussi à Colombes, qui est donc à Colombes, à l'ouest de Paris, qui est un site qui a été monté par l'atelier d'architecture autogéré, qui est un lieu de recyclerie, avec une recyclerie, il y a tout un lieu d'échange, il y a toute une partie de jardin pour les habitants. Et en fait, ce lieu-là est aussi voué peut-être à disparaître. Il y a une pression de la mairie qui veut faire un parking à la place, un parking provisoire en plus de ce que j'ai cru entendre dire. Donc voilà un autre lieu en lutte qui mérite d'être connu et d'apporter notre soutien là-bas. Le Bois d'Ormois aussi, enfin bon, je ne vais pas tous les dire, mais c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment énormément de jardins qui sont créés comme ça. Donc là, j'en ai montré qu'ils ne sont pas créés que de manière guérilla gardening, il y en avait quand même 2-3, mais la plupart des jardins à Paris sont souvent des lieux qui ne sont pas forcément voués à rester. Il y a beaucoup de pression immobilière, il y a beaucoup de pression des mairies qui veulent y faire autre chose, etc. Et malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui les occupent et qui ont envie de les garder. Ça, c'est sur les diggers. Alors, les diggers, c'était plus au 15e, 16e, 17e siècle. C'était plus en Angleterre aussi. Et ils se sont battus contre la privatisation des terres. Ils se sont battus. En fait, c'était beaucoup des paysans qui se faisaient, en gros, un peu comme le remembrement qu'on a pu avoir en France, se faire éjecter, leur terrain racheté ou repris tout simplement par la force pour pouvoir avoir des exploitations beaucoup plus grandes. Et en fait, eux, ils ont fait beaucoup d'actions où notamment ils rebouchaient tous les chantiers de clôtures autour des champs et ils allaient détruire les poteaux. Enfin, vraiment, il y a eu tout un mouvement comme ça. Il y a eu beaucoup de morts aussi durant ces luttes. Il y a eu aussi des actions de jardinage où ils ont occupé tous les terrains qui étaient délaissés. Donc c'était un peu le début du squat. Ils ont commencé à occuper par exemple dans les forêts. Ils allaient faire des jardins dans les forêts pour essayer de subvenir juste à leurs besoins. Et ils ont fait beaucoup aussi d'audiences auprès du roi, beaucoup d'audiences, etc. Ils n'ont jamais été écoutés. Et finalement, au final, il y a eu quand même tout ce remembrement qui a eu lieu en Angleterre. Et en fait, ça se rattache avec tout type d'actions qui ont lieu aussi encore aujourd'hui sur les sans terre, sur les questions du bien commun qui est la terre, sur plein de paysans qui se retrouvent éjectés de leur terre par notamment des grosses multinationales qui viennent occuper leur terre. Et du coup, nous, ça a aussi intéressé un petit peu à tout ce qui est question d'agriculture, de la terre et de qu'est-ce qu'on faisait quand on occupait des terrains de manière pour faire des légumes. Et donc, on s'est vachement intéressé, nous, à tout ce qui s'est passé en région parisienne, à toutes ces exploitations aussi qui ont disparu, à toutes ces fermes. À droite, c'est en 2002, c'était un verger qui a été détruit, qui était vers Argenteuil. Et en parallèle, d'autres formes d'agriculture urbaine, maintenant qu'on pouvait voir aussi à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment à la mode. Mais pareil, on est dans des modes de conception de ce qu'est l'agriculture qui peut être complètement différente. Pour nous, par exemple, c'est pas vraiment ce type d'agriculture qu'on défend. Et on se dit que l'agriculture urbaine et tout ce qui est jardinage sont au final vont pousser des questions beaucoup plus lointaines que juste faire du vert, juste faire pousser quelques légumes en ville. C'est vraiment des questions beaucoup plus larges qui sont sous-tendues par le sujet. Et pareil, en fait, on s'est intéressé un peu à toutes les luttes qu'il y a pu avoir en France ou qu'il y a actuellement en France, notamment sur les ZAD, les zones à défendre, par exemple l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, où des personnes se battent pour éviter que ces terres soient urbanisées. Donc c'était aussi une forme de guérilla gardening, c'est des gens qui occupent des terres pour subvenir à leurs besoins et pour jardiner. À droite, c'est les lentillères à Dijon. Pareil, c'est un de grands terrains qui étaient avant qui étaient utilisés par des agriculteurs et qui sont voués à être urbanisés pour faire des écoquartiers. Où là aussi, ils occupent les terrains pour les défendre. Et après, moi, je me suis intéressé à une plaine qui est à l'ouest de Paris, qui s'appelle la plaine de Montesson. Donc j'ai habité par là quand j'étais petit, et en gros c'est une plaine où il y a aussi de l'agriculture. Il y a une champignonnière qui est une des dernières de Paris aussi, et en fait cette plaine, elle est grignotée d'une année, chaque année elle est grignotée un peu plus, et notamment la champignonnière risque de fermer. Et du coup, on s'est mobilisé sur place et on a monté plusieurs actions très variées. Donc ça pouvait être d'occupation de terrain qui était voué à l'urbanisation pour y faire des jardins. Ça pouvait être préservation de pommes de terre anciennes. Alors en fait, on s'est appelé la ZAD patate, zone à défendre patate. Et du coup, on a surtout fait des pommes de terre sur ces terrains-là. Et à côté de ça, on a mené aussi des actions plus juridiques d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on a contesté l'utilité publique d'un centre commercial, par exemple. On a contesté la validité du SCOT qui a été mis en place, le schéma de cohérence territoriale là-bas. Et jusqu'à présent, là, on a gain de cause à chaque fois sur le point de vue juridique. Sur le terrain aussi, on a un gain de cause aussi, parce qu'on arrive aussi à mobiliser des gens, à les avertir sur ce qui se passe vraiment autour de chez eux. Et j'en profite pour dire un mot sur samedi. Là, nous, on va y retourner aussi. Samedi, il y a la mairie qui organise la fête de la salade. Donc, c'est tous les ans, ils fêtent la salade en disant, bon, voilà, nous, on a une belle plaine, on produit des belles salades, etc. Et nous, on fait une défaite de la salade. Et en gros, on va distribuer des salades, on va distribuer... Et en gros, on essaie d'alerter les gens sur ce qui se passe vraiment sur cette plaine et comment elle est urbanisée d'une année sur l'autre. Et qu'il faut aussi qu'ils donnent leur mot là-dessus, qu'ils participent avec nous sur ce combat. Donc voilà, ça, la défaite de la salade... c'est plus pour montrer quelques actions où il y a aussi défendre donc les terres qui sont urbanisées. Je pense que c'est un peu un combat d'urgence aussi d'essayer d'empêcher l'urbanisation de ces terres et de questionner aussi sur ce qu'est l'agriculture urbaine. À dire que c'est peut-être pas forcément la seule solution pour sauver les terres et que le mieux ce serait peut-être déjà d'éviter d'urbaniser les terres. Là, il y a quand même des gens qui essayent de retrouver de la terre en ville pour jardiner. Alors nous, on défend beaucoup les jardins qui sont en pleine terre, justement pour éviter de se dire qu'on est déconnecté de la terre, qu'on peut aussi trouver des solutions en faisant des choses avec des pompes et de l'énergie, etc. C'est-à-dire, si on protège la terre, allons jusqu'au bout, évitons aussi de rentrer dans ce schéma-là de jardin hors sol. Et ici, par exemple, c'était une action organisée par Reclaim the Street, qui eux questionnent sur l'espace public aussi, dire l'espace public est à chacun de nous. Et ils font des grosses fêtes, en gros, dans la rue. Et là, ils avaient des poupées géantes sur échasses. Et dessous, il y avait des gens, en fait, qui étaient avec des marteaux piqueurs et qui défonçaient la route, en gros, et qui derrière replantaient. Donc, il y avait une espèce de farandole comme ça. Et ils ont fait des jardins comme ça. Ça arrive aussi qu'on le fasse retirer des dalles de béton pour mettre des plantes. Sinon, on essaye aussi de rapporter un peu de terre ou de redonner des nutriments à la terre pour qu'elle puisse produire. À gauche, il y a une photo sur la petite ceinture à Paris. Donc aussi, on peut produire on peut produire plein de légumes sur la petite ceinture. À droite, c'est sur une petite placette où il n'y avait que du stabilisé, où on a ramené un peu de terre et des épluchures ou du compost du quartier pour faire un jardin. Bon, le jardin de droite a disparu maintenant. Une autre technique, c'est qu'on récupère les invendus de marché qui sont immangeables, que personne ne va récupérer, pour faire du paillage directement avec. Là, l'idée, c'est de dire on peut faire du compost en fait directement en mettant les épluchures au sol. C'est même mieux que le compost en fait quand c'est en petite quantité. Sinon, on fait des actions qui n'ont un peu rien à voir, mais qui peuvent en fait toucher plein de sujets très variés qui ne sont pas forcément liés aux questions du jardinage, liés aux questions de l'agriculture, mais qui peuvent être sur des événements du moment. Par exemple, on a participé à plusieurs actions durant la COP21. En se disant la COP21, c'est un événement où ils nous font croire qu'ils vont faire réussir à faire changer leur comportement juste sur en changeant quelques lois, et on se dit que c'était pas suffisant, qu'on sait que souvent c'est des toutes petites mesures qui sont même pas forcément mises en place. Et du coup, à travers le végétal, on s'est dit est-ce qu'on peut pas aussi faire des actions pour sensibiliser les gens sur ces problèmes là Donc là, je reviens vite fait sur les tags en mousse. C'est une technique qu'on fait qui est à base de mousse qu'on trouve dans les jardins, par exemple, qui pousse assez facilement, et on va juste la coller en fait sur les murs. C'est une technique qui demande très peu de moyens. C'est juste de la farine, de l'eau, on met un peu de bière ou des nutriments en plus si on veut que la mousse tienne longtemps. Et du coup, ça, c'est aussi une technique qu'on développe pour éviter d'utiliser des bombes et pour écrire des messages quand même. Donc on a lancé, on avait fait deux trois tags comme ça pendant la COP, et on a lancé aussi un plan Végépirate. Donc ça, c'est une autre forme de communication. On joue aussi un peu sur les mots autour du monde du jardinage, autour des codes qui peuvent y avoir. Donc là, on était en plein boom du plan Végépirate. On s'est dit il y a aussi d'autres urgences et d'autres points où il faut qu'on soit vigilant, notamment sur le greenwashing, sur tous ces espaces qui sont désenchantés en ville, et sur la question aussi du côté terrorisme, en se disant que des fois c'est pas évident d'en parler, mais sur que les que les terroristes, c'est pas forcément nous qui jardinons, qui sommes considérés, on peut être considérés comme terroristes. C'est peut-être plus des fois de grosses. Voilà. Un petit problème. C'est peut-être plus des fois des grosses boîtes ou des gros organismes qui peuvent être eux aussi terroristes pour l'écologie, etc. Je vais essayer de remettre en plein écran. Une autre action, moi à droite, c'est aussi un tag en mousse. À gauche, on a fait des actions qui s'appelaient Une pensée pour le climat. Et en fait, on allait planter des pensées un peu partout en ville et on mettait des croix avec des messages sur la mort, par exemple. Là, c'était Une pensée pour l'oiseau mazouté, c'était à côté d'une station d'essence Total. Donc voilà, c'était servir du mot de la pensée pour avoir une pensée pour le climat. Là actuellement on fait des actions de jardinage sur à la place de la République. Donc c'est une place où actuellement il y a tout un mouvement qui s'appelle Nuit Debout, qui occupe la place et qui questionne justement sur comment est-ce qu'on peut changer notre société un peu plus en profondeur que juste avec quelques lois dont on ne croit plus forcément. Et du coup on s'est mis à faire des jardins, des jardins au pied des arbres. Il y en a qui ont même retiré des dalles de la place pour faire des jardins. Donc voilà, il y a plusieurs exemples. En fait, c'est pareil, là on se retrouve tous les jours avec le même problème, c'est qu'on a la police qui vient nous retirer toutes les plantations, toutes les plantes qu'on peut mettre. Donc voilà, avec les services de la municipalité, on se fait retirer toutes les plantes à chaque fois. Et en fait, ouais, je voulais parler de ça aussi parce que en parallèle, la mairie du 10e organise République verte, un jardin éphémère, le 21 mai. Donc là, ils veulent faire un jardin éphémère sur la place de la République, à l'endroit même où ils nous virent tous les jours. Donc c'est un peu culotté. Et du coup, pareil, on a lancé un plan Végépirate autour du droit de jardiner. La mairie de Paris avait lancé un permis de végétaliser. Donc le principe, c'est de dire, la mairie, elle dit, si vous voulez jardiner, il faut demander l'autorisation et vous nous demandez, et nous, on vous donne le droit ou pas de jardiner dans la rue. Et bon, nous, ça nous a mis un peu un coup parce que déjà, ça fait super longtemps qu'on jardine. Il faut savoir qu'autour de ces pratiques qui sont mises en place par les mairies, par exemple avec le permis de végétaliser, c'est de se dire, en fait, ils essayent de s'approprier aussi tout un monde de tout le milieu du jardinage. Ils osent dire, voilà, on est en train d'innover, de réinventer la façon dont on occupe la ville et on jardine. Et du coup, on a dit, nous, on va lancer un Végépirate par tous. Et donc, en gros, on donne des permis de des droits de jardiner à tout le monde, si vous voulez. On peut vous en donner à la fin de la conférence. Et vraiment, c'est un appel à dire, allez-y, jardinez aussi un peu partout, en bas de chez vous, n'hésitez pas. Je vais finir juste avec deux petites histoires. Ça, c'est l'histoire de John Chapman. Alors, c'était aux États-Unis. C'est un homme, en fait, qui a fait des kilomètres et des kilomètres en suivant des colonies. Et derrière eux, il semait des pommiers. Il a planté des centaines et des centaines de... il y a même marqué 17 000 arbres aux États-Unis. Et du coup, voilà. Ça, c'est un autre homme qui est en 2012. C'est en Inde, lui. Il a plutôt... en 2012, on en a entendu parler un peu plus. Mais en fait, il a replanté toute une forêt sur un lieu qui avait été... vous avez coupé toute la forêt. Et en fait, il s'est rendu compte que tous les animaux, ils n'avaient plus de refuge. Et il s'est dit, faut que je fasse quelque chose. Il s'est remis à planter des arbres. Et maintenant, il y a des espèces même qui sont protégées dans la forêt. C'est un autre exemple d'une personne qui plante des arbres. C'est un artiste qui a planté des arbres devant des panneaux de publicité. Donc pareil, ça questionne sur l'espace public et sur l'espace visuel. Donc en fait, ouais, ça c'est aussi pour vous dire que des fois, même tout seul, on peut réussir à planter beaucoup de choses. Même déjà un arbre, c'est déjà beaucoup. Donc, et en fait, nous, on invite vraiment un maximum de personnes à nous rejoindre aussi, si vous voulez participer en groupe aussi ou qu'on donne des coups de main. Le prochain événement qu'on organise, ce sera le 7 mai, ce sera le premier samedi du mois. Tous les premiers samedis du mois, on se retrouve au Jardin Afghan. Le Jardin Afghan, c'est un jardin qui est 200 quais de Valmy, près du point éphémère, où on occupe une petite bande de terre pour y faire un jardin qui un jour qu'on espère autonome. Mais là, on y va spécialement le début du mois parce qu'il y a la journée internationale du tournesol. Donc il faut savoir que au Guérilla Gardening, on a plusieurs événements internationaux. Il y a eu la journée du chanvre mi-avril, il y a la journée de la tulipe, il y a la journée en fait, c'est des dates un petit peu comme ça récurrentes qui permettent aussi de mobiliser un petit peu toute l'année les gens. Et là, du coup, on va semer surtout des tournesols un peu partout en ville. Donc c'est une plante qui pousse super vite, qui n'a pas besoin de beaucoup de terre, qui a plein de bonnes vertus, notamment elle est dépolluante, on peut manger les graines, selon les sites. Et elle produit aussi énormément de graines. Donc voilà, ça, pareil, si vous voulez des graines, je peux vous en donner si vous voulez participer. Sinon, on va aussi, pour les gens qui participent à l'atelier, on va faire des semis de tournesol aussi, donc vous pourrez repartir avec et les ramener le jour de l'action ou les garder pour chez vous ou les planter ailleurs. Si vous venez pas non plus aux prochaines actions, on a quand même plusieurs outils. Il y a notamment une carte collaborative où il n'y a pas besoin de s'inscrire, où vous pouvez repérer des lieux où on a déjà jardiné. Vous pouvez ajouter des espaces que vous avez repérés, vous pouvez ajouter des actions que vous avez faites, etc. Et on a d'autres outils aussi qui permettent aussi un peu de se familiariser avec le monde de la guérilla gardening et avec comment s'y mettre quoi. Donc on a notamment on essaye de mettre un maximum d'informations sur comment diviser des plantes, sur comment multiplier à moindre frais en allant acheter des graines sur le marché ou en allant récupérer des pommes de terre. En ce moment, c'est le bon moment. Si vous récupérez des pommes de terre, vous pouvez les planter en pleine terre directement. On écrit aussi un peu des textes sur des questions d'actualité, sur notamment beaucoup de réflexions sur la privatisation de l'espace public, sur l'institutionnalisation aussi des pratiques jardinières, notamment avec le permis de végétaliser. Et après, vous retrouvez aussi un peu toutes les histoires et d'autres sur que j'ai pu vous présenter ce soir. Puis voilà, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Merci beaucoup.
Bonsoir. Merci pour cette intervention, c'est formidable. Quelle est l'attitude de la mairie de Paris vis-à-vis de vos actions ?
Ça varie en fait d'un peu une année sur l'autre. C'est un peu le problème aussi, c'est qu'on a toujours des interlocuteurs qui sont différents. Alors que nous, on est tout le temps là, d'une certaine façon. Donc c'est pas évident aussi, on n'est pas sur le même rythme. Après, on a eu pas mal de soutien en disant oui, c'est très bien ce que vous faites, mais on peut pas donner d'autorisation pour ce type d'action. Et d'année en année, on a de moins en moins de contacts avec la mairie, on est plutôt mis de côté, instrumentalisé d'une certaine façon aussi, ou institutionnalisé. Et maintenant, oui, on a quasiment plus de contacts. Mais après, voilà, je pense que c'est un rythme aussi, un rythme qui a pas, enfin, qui change avec d'une mandature sur l'autre, par exemple. Ça remonte du temps à rencontrer les gens, à ce qu'ils viennent vers nous. Après, nous, on est pour le dialogue aussi. On a déjà eu des réunions avec eux, on en a déjà parlé. Mais je pense, enfin, ils sont pas spécialement contre que les gens jardinent, d'une certaine manière.
Martine, du Conseil consultatif des personnes accueillies et accompagnées dans les structures d'hébergement. J'ai l'impression que vos légumes, vos plantes, c'est aussi dangereux que les SDF, quoi. Parce que le soir, ils ont le droit de mettre leur carton à 22h pour dormir. Puis le matin, à 7h, il y a la mairie de Paris qui vient leur enlever les cartons, les mettre à la poubelle, quoi. Alors vous, vous dites, vous enlevez 3 dalles, vous mettez deux plantes, puis le lendemain, il y a des autorités qui viennent vous enlever vos plantes, quoi. Enfin, Et puis alors, bon, vous parlez de guérilla. Il n'y a que l'action guérilla. Par exemple, dans certaines banlieues un peu isolées, il y a par exemple une personne âgée ou je ne sais pas, qui a un petit jardin qu'elle n'arrive plus à faire. Est-ce qu'elle peut dire, ben, pourquoi vous ne viendriez pas faire quelque chose dans mon jardin, quoi ? Ça ne serait plus de la guérilla, ça, effectivement. Ouais, ouais.
Mais enfin, en fait, à part si le jardin il est mis à disposition d'un peu tout le monde, si c'est que pour nous et, ou que pour qu'elle se l'approprie d'une certaine façon derrière. Enfin, à la limite, ce serait pour l'idée si ce jardin on pouvait retirer les clôtures et dire bon voilà, ça devient un jardin qui est pour tout le monde. Bah pourquoi pas. Hein. Ce serait une forme de guérilla, pas forcément guérilla gardening, pas forcément celle qu'on a l'habitude, mais pourquoi pas. Hein. Après, sur les jardins, là, par exemple, à République, qui se font détruire, c'est un exemple, mais c'est assez rare, en fait. Parmi les actions qu'on fait, la plupart des jardins restent dans le temps. Hein. Là, c'est l'exemple actuel. C'est pour ça qu'on évite un peu, quand même, de faire ce type d'actions, qui sont des actions un peu kamikazes, on va dire, ou plutôt d'essai. Là, on a mis vraiment des toutes petites plantes, on a juste mis quelques graines, un peu de terre. Enfin, c'est pas des gros investissements non plus. Et c'est ça aussi qui fait la force de l'action, c'est que s'ils détruisent, bah, le lendemain, on peut revenir aussi. On n'a pas vidé tous nos tirelires pour faire l'action. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de prendre en compte. S'il y a un jardin qu'on sent qu'il est protégé depuis plusieurs mois, qu'on voit qu'il n'est pas trop piétiné, on se dit, bon, bah, on peut commencer peut-être à ramener des petites boutures qu'on a fait, refaire des semis un peu plus conséquents, se mettre à faire des allées, commencer à construire des choses, quoi. C'est vraiment avec il faut un regard un peu sur le site pour se dire bon bah là c'est le bon moment, on peut vraiment s'y mettre ou non on laisse tomber. L'idée c'est pas de démoraliser les gens sur les jardins, sur les actions.
Bonsoir, merci pour cette intervention. Moi je m'interrogeais sur la comestibilité, c'est comme ça qu'on dit, des légumes cultivés en ville, dans la mesure où je crois savoir, j'y connais pas grand chose, mais je crois que les plantes aromatiques par exemple sont un vrai filtre à particules, donc si on met du basilic ou de la menthe sur son balcon qui donne sur la rue, c'est pas terrible pour la santé. Qu'est-ce qu'il en est des légumes qu'on peut planter en ville du coup?
Bon, ça c'est pareil, c'est une question qu'on a assez souvent. En fait, il y a eu plusieurs études qui disent un peu toute la même chose, c'est qu'il faut en fait être assez. C'est pareil, c'est l'observation en fait sur le lieu. Par exemple, il faut mieux planter si on est assez loin de la rue. Bah, on peut se dire bon, il y a quand même moins de pots d'échappement, donc il y aura quand même moins de pollution. Après, si c'est en haut d'un immeuble, il y a moins de risques aussi. Après, nous, ce qu'on rêve, c'est qu'un jour, il n'y a plus de voiture. Moi, je suis jardinier à vélo, c'est pas pour rien. Et de se dire, si on lance quelque chose, si déjà on apprend aux gens à semer une graine, si on apprend déjà à reconnaître les légumes, si on commence à multiplier des plantes qui sont par les graines qui sont résistantes à la pollution, si déjà on retravaille le sol pour recréer un vrai sol et justement qu'il soit pas pollué. Enfin déjà, enfin c'est toute une base. Après sur la question des pollutions, à vrai dire les récoltes sont pas non plus énormissimes. Hein, c'est pas non plus l'objectif des actions qu'on fait. On se dit pas agriculteur ou autre. Et puis voilà, non, après, on mange en petite quantité, on se dit que c'est pas pire que ce qu'on trouve dans les supermarchés, sachant qu'il y a plein de champs qui sont près d'autoroutes, et plein de pesticides, etc. Donc ça peut pas être forcément pire que ce qu'on va manger. Et après, avec le temps, on a aussi référencé aussi les plantes qui sont plus accumulatrices ou non de certains polluants. Donc c'est aussi des repères qu'on peut faire avec le temps, dire voilà les feuilles ça capte plutôt telle pollution, les racines bon, c'est plutôt dans le sol, enfin des choses un peu logiques comme ça. Après il n'y a pas de cas particulier, enfin il n'y a pas de, le jardin c'est jamais pareil d'un endroit à l'autre, donc il n'y a pas une solution en jardinage, il faut observer, il faut y passer du temps et avoir un peu confiance.
Bonjour. je voudrais savoir, question pratique, à partir d'une graine, donc par exemple les graines de tournesol, si j'entends demander à la fin, comment je construis une seed bomb?
Ça c'est simple, en fait il faut juste de la terre, il faut de la terre un petit peu argileuse. Donc c'est de la terre en fait quand on prend dans la main, qui si on met un petit peu d'eau devient un petit peu, elle colle en fait un petit peu dans la main et elle se délite pas. C'est-à-dire par exemple du terreau, si on le serre dans la main, quand on relâche, il va s'évacuer un peu partout. Donc ça on peut en trouver souvent dans les lieux un peu humides, c'est les endroits où on en trouve le plus, au bord des rivières, au bord des étangs, dans les jardins. Au final la terre est souvent argileuse. Après je sais pas si t'en veux vraiment, nous on en a aussi. Après voilà, si vous voulez participer et qu'on vous dise où vous trouvez des choses particulières comme ça, vaut mieux nous contacter et qu'on aille vous faire un tour ensemble pour vous montrer, plutôt que je vous dise exactement où on trouvait aujourd'hui. Et voilà, après j'ai pas trop pour trouver de l'argile. Donc en fait ouais, juste pour finir, il faut prendre un peu d'argile, il faut pas qu'il y ait que de l'argile. Après on met un petit peu de terre, il faut moitié terre de jardin, moitié terre argileuse, et après on met les graines soit à l'intérieur en faisant un trou et on met la graine au milieu, soit on met des graines tout autour, on mélange tout, la terre, l'argile et les graines, et on fait les boules. Et donc il y a plusieurs techniques. Après c'est pareil, les techniques sont détaillées aussi sur internet, sur le site, si ça vous intéresse.
D'accord. Et du coup, sur l'argile, on peut en trouver dans Paris, enfin, si...
Oui, on peut en trouver. On peut en trouver un peu. Oui, si on peut en trouver, oui.
Les gens où, par exemple?
Pardon?
Où ça, par exemple?
Dans certains jardins. Après, faut avoir l'œil et la repérer, mais je vous dis, il faut essayer de faire la technique de voir si elle est un peu, si elle colle un petit peu, et puis vous pouvez en trouver un peu partout.
Et t'as une bonne adresse de? D'endroits où il y a de l'argile.
Il y a des endroits, mais c'est pareil. Enfin, je ne vais pas dire forcément où c'est, comme okay. Ça.
Merci.
Putain, je vois rien.
D'autres questions. Bonsoir. Si j'avais un projet d'investir un espace à Paris et que je sais que les gens du quartier sont pas très réceptifs à ce genre d'action. Est-ce que vous pourriez donner des conseils? Est-ce que vous pourriez expliquer comment vous faites pour travailler, enfin pour, je sais pas, en parler aux habitants, etc., pour que ça se passe bien, en fait. Voilà.
En fait, on a eu pas mal de sollicitations pour ça, notamment pour lancer des jardins partagés aussi, ou lancer des initiatives comme ça. En fait, ce qui est bien, c'est que nous, on vient de l'extérieur, au final, de l'endroit où la personne veut faire son jardin. Donc on se retrouve face à des habitants qui ne nous connaissent pas au final et qui ne peuvent pas aussi rejeter leur haine contre le jardinage. À le pire, s'ils le rejettent sur nous, ce n'est pas grave, mais au moins ils ne le rejettent pas sur vous. Et on sert un peu de tampon et on peut discuter comme ça peut-être un peu plus posément. Après, il y a une autre chose, c'est de se dire, il y a toujours de toute façon une ou deux personnes qui va dire non, c'était mieux quand il y avait de l'herbe haute, c'était mieux quand il y avait des déchets. Enfin, on peut tout entendre. Mais à force de jardiner, de montrer qu'on peut réussir à faire un jardin, que ça peut produire, que ça se passe bien, que c'est pas bruyant, que les gens qu'il y a une bonne entente, il faut aussi, il faut essayer de les mettre un maximum dans le projet. Hein, il faut dès le début, quoi. Et après les choses se font petit à petit. Après si ça marche pas, je pense qu'il faut pas non plus forcer les choses, quoi. Faut que tout le monde en a envie, quoi. Mais on peut donner un coup de main si vous avez envie qu'on vienne ou qu'on mobilise des gens qui habitent dans le même quartier. Enfin, n'hésitez pas. Oui.
Juste une petite précision, s'il vous plaît. C'est quoi être jardinier à vélo? Qu'est-ce que vous faites? J'ai pas compris ce que c'était. Vous avez un vélo avec un jardin dessus. Vous baladez, non. J'ai pas compris.
Aussi, d'une certaine manière, oui. Non, le principe, c'est de dire qu'à Paris, notamment, on n'a pas forcément besoin d'avoir un gros camion et de polluer, et de se taper les bouchons, et qu'on peut être aussi efficace avec un petit vélo et trois pelles et nos plantes derrière pour aller faire des chantiers chez des particuliers, là. Mais au-delà de ça, le vélo, il symbolise beaucoup plus que ça. Hein. C'est pas que sur le déplacement, c'est vraiment aussi sur des pratiques qu'on utilise. On n'a pas d'engin à moteur. On utilise des engrais naturels, etc. Donc c'est toute une dynamique autour du jardinage et autour aussi comment on intègre les gens dans le projet, comment faire aussi jardiner les gens qui nous demandent d'aller jardiner chez eux pour qu'ils participent aussi à leur jardin et qu'on soit pas juste des prestataires à faire l'entretien, quoi. Voilà, en gros, en deux mots.
Donc, je comprends mieux. Moi, j'ai un permis de végétaliser, donc maintenant, je suis connue. J'ai un vieux caddie avec une caisse en bois, une caisse de vin, et j'ai ma bêche, tous mes... Voilà,
ça
donc,
ok. Bien.
Donc, pas de pollution, non.
Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. J'ai entendu dans ce que vous disiez, et à juste titre, que parfois les relations avec la mairie de Paris, vu que vous travaillez à Paris, pouvaient être un petit peu conflictuelles, ce qui est logique dans tout ce que vous racontez. Je voulais, alors pas du tout pour faire l'avocat du diable, mais en fait j'ai vu qu'il y a une semaine ou deux, sur Internet, il y a une initiative de la mairie de Paris qui s'appelle Paris Culteur. Vous en avez entendu parler, je pense. Il y a une cinquantaine de sites dans Paris, plutôt sur les toits, qui ont été visiblement repérés. Et aujourd'hui, les gens qui vivent sur place, les citoyens parisiens, peuvent soit tout seuls, soit en collectif, avec un petit peu qui on veut, en fait, proposer une idée, genre, voilà, nous, on est à tel endroit et on a envie d'investir ce site-là pour mettre un verger, pour faire pousser des champignons dans un parking, pour mettre plein de trucs, voilà. Et je trouvais que c'était bien aussi de dire que, que malgré tout, ça existe, de pouvoir proposer ce genre de choses. Voilà.
Il faut voir comment c'est mené aussi. Ils ont dit qu'ils allaient faire place, une place importante pour les associations, les personnes individuelles, etc., qui voulaient répondre. Bon, on verra si déjà c'est le cas. Je pense que c'est bien aussi que l'agriculture urbaine, d'une certaine façon, ne s'industrialise pas ou ne se retrouve pas qu'en main de certaines entreprises qui veulent faire la communication. Faut savoir quand même que dans les toits, il y a une bonne moitié qui est que pour la végétalisation, donc c'est pas forcément pour du jardinage. La végétalisation, c'est vraiment quelque chose que la mairie de Paris fait. En fait, elle met des plantes qui font pour faire joli, mais il n'y a pas cette émulsion avec les gens qui vont jardiner. Le fait de jardiner, c'est de mettre les mains dans la terre. Donc c'est pareil. Il faut que ces projets-là, ils soient, enfin à mon goût, hein, ils soient les gens puissent y participer aussi, quoi, et que ce soit pas une privatisation des toits. Il faut à la limite que tous les toits y soient accessibles. Que là, on rentrerait aussi dans l'histoire d'espace public, parce que les toits, est-ce que c'est pas un espace public aussi? On peut se poser la question. Donc c'est à voir comment c'est traité et si c'est vraiment laissé ouvert au plus grand nombre, quoi. Mais oui, c'est intéressant sur le principe, ça fait gagner de l'espace. On verra.
Bonjour. Désolée, tu l'as peut-être déjà dit, mais j'étais un peu en retard, je n'avais pas prévu la sécurité. Mais si tu as 5 exemples de plantes qui sont ultra résistantes et qui poussent bien dans la rue, quelles sont-elles, à part les tournesols apparemment? Et aussi, du coup, aussi à cause de la sécurité, je n'ai pas pu m'inscrire aux ateliers. Donc est-ce que vous faites, vous prévoyez aussi des temps en dehors de vos actions, comme ça, un peu atelier pour, comme tu disais, faire des tours, expliquer un peu comment faire ça dans la rue? Voilà.
Ouais, sur les ateliers, on n'appelle pas ça spécialement atelier. En fait, la plupart du temps, déjà, quand on se retrouve, c'est pour jardiner. Donc, d'une certaine façon, c'est une forme d'atelier, quoi. Donc, on peut faire un petit peu de tout. Selon les sites, on peut très bien faire un atelier sur comment est-ce qu'on observe un site et comment est-ce qu'on se l'approprie, comment est-ce qu'on observe les défauts ou les points positifs qu'il peut y avoir sur ces sites-là. On peut aussi apprendre à reconnaître des graines, à récupérer des plantes qui sont dans le quartier pour les multiplier. Enfin, ça peut... Après, c'est en fonction des demandes et des envies des gens qui viennent. Donc, il n'y a pas vraiment d'atelier à thème, par contre. On ne fait pas de journée, fait pas d'atelier vraiment spécifique. À moins qu'il y ait vraiment des demandes. Je ne sais pas, on ne fait pas spécialement d'atelier en général, mais on apprend les gens à jardiner. Après, sur les types de plantes, c'est pareil, ça dépend un peu des sites. Nous, on a des bons résultats avec les courges, quand même, un petit peu toutes. Là, on a un endroit où il y a des chardons Marie, mais partout aussi, donc c'est une plante qui pousse super bien. C'est un chardon, mais qui fait des feuilles un peu panachées, blanches, et des grosses fleurs violettes. Donc, c'est pareil, ça en a plein de graines, du coup. Qu'est-ce qu'il y a qui marche bien? Il y a le souci, il y a les tomates, au final ça peut bien marcher aussi. Les roses, Trémière, ouais, ça marche, ça peut marcher, ouais, ça marche bien. c'est pareil, ça dépend des sites. Les quoi? Les iris, oui. En fait, à vrai dire, ouais, tout peut marcher, quoi. Il faut trouver un peu le site qui correspond. Et nous, on essaie de vraiment diversifier les plantes et pas tomber toujours sur les mêmes plantes. Donc, d'un mois sur l'autre, on va avoir des plantes complètement différentes. Et on essaye du coup aussi de les multiplier. Donc, on peut aussi vous apprendre à multiplier, je sais pas moi, des plantes que vous auriez vu croiser dans la rue. On peut vous dire comment on les multiplie et pouvoir les réutiliser après. Après, moi, ce que je vous conseillerais, c'est plutôt de choisir des plantes qu'on peut trouver pour pas trop cher, partir plutôt à partir de graines, parce que les plantes deviennent plus résistantes aussi que si on les achète déjà en racines. Elles ont poussé dans du terreau souvent et elles sont pas forcément adaptées après pour être dans de la terre parisienne. Après, voilà, c'est vraiment au cas par cas.
Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir réunis ce soir et de nous apporter tout ça. Je voulais vous demander, est-ce que vous connaissez l'association? Enfin, bien sûr, vous la connaissez, à mon avis, Incroyable Comestible. Et est-ce que c'est quelque chose qui est viable? Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez? Et comment vous avez réussi à avoir ce lieu, en fait, ce soir pour nous réunir ici? Comme vous dites qu'il y a beaucoup de problèmes, attention, hein. C'est pas du tout. C'est juste pour savoir, moi je suis président d'une association aussi, et je vois que vous avez eu un beau lieu et que vous avez pu pouvoir réunir autant de personnes ce soir, et je voulais juste savoir comment vous avez fait. Voilà.
Je vais laisser Ghislaine répondre.
C'est une idée, parce que c'était intéressant et qu'on avait envie de le faire, et que par ailleurs le centre avait aussi un projet qui était de faire l'art de la révolte. Et donc, on s'est associés et la bibliothèque donc, a participé à cette manifestation. Mais c'est vrai qu'on avait l'intention, indépendamment de la manifestation du centre, de le faire de toute façon. Donc après, Gabi m'intéressait parce que, justement, il est fondateur du collectif Gardening, Guérilla Gardening France, et qu'il a un tas de facettes. Et c'est pour ça qu'on l'a invité ce soir à faire cette conférence et ces ateliers.
Et après, nous, on ne fait pas spécialement de communication. On défend en plus vraiment la communication par l'action en disant, déjà, nous, on ne cherche pas forcément à faire de la communication à tout prix pour faire connaître Guérilla Gardening. Ce n'est pas vraiment l'objectif principal. C'est déjà que les gens ils se mettent à jardiner un maximum. En ville, qui est important. Donc, on se dit, plus on fera de jardin, plus on mettra les mains dans la terre, plus les gens verront que c'est possible, plus le mouvement va grossir d'une certaine façon. Mais on n'a pas vraiment d'objectif précis. L'autre question, c'était sur Incroyable Comestible. Oui. Si après, moi, je suis pour toutes les formes, au final, d'appropriation de l'espace public et de jardinage en ville. Hein, donc, il n'y a pas du tout de souci avec ce schéma-là. Après, je pense que c'est complémentaire aussi avec le type d'action Guérilla Gardening. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir cette assurance en ayant peut-être ce que souvent Incroyable Comestible, je vais expliquer un peu en deux mots. Incroyable Comestible, le principe, c'est de faire des jardins potagers en ville et que tout le monde puisse se servir et cueillir un peu les légumes qu'il peut y avoir, les aromatiques en ville. Et souvent, il y a quand même une certaine charte un petit peu d'organisation et de communication où normalement, il faut demander à la mairie pour avoir l'autorisation pour faire ces jardins. Donc voilà, nous, on a eu des retours de personnes, par exemple, qui faisaient des actions incroyables comestibles et qui ont eu ras-le-bol de que ça prenne trop de temps avec la mairie, qu'on leur demande de mettre le petit panneau mairie de Paris, jardinier, enfin... Ils s'approprient aussi le truc d'une certaine façon. Nous, on n'a pas spécialement envie aussi que les mètres carrés ou les hectares de jardins qu'on fait en ville soient répertoriés aussi par la mairie. Ils retombent aussi justement dans leur comptabilité au final qui ont des vues politiques. Donc se dire, l'objectif de la mandature aujourd'hui, ça va être de faire 100 hectares de toits végétalisés ou d'agriculture urbaine. Moi, j'ai pas spécialement envie de soutenir la politique qui est actuellement mise en place, donc j'ai pas envie d'être comptabilisé. Donc ça, c'est un exemple, hein, mais ça peut être une des raisons qui fait qu'on veut pas forcément passer par d'avoir d'autorisation. Après, voilà, non, pas de souci sur les gens qui font Enfin, nous, on fait de la guérilla potagère aussi. Hein, il y a pour tous les goûts, hein, je dirais.
Oui, merci pour votre présentation, vraiment très intéressant. Je voulais savoir, enfin, je ne connais pas grand-chose en jardinage, et je trouve très amusant de faire pousser les plantes dans les chaussures ou les toilettes. Et je voulais savoir, c'est quoi la procédure? Est-ce que c'est terre, terreau? Est-ce que c'est les mêmes plantes qu'on a parlé juste avant que vous faites pousser dedans? Enfin, la procédure.
Ouais, c'est pareil, c'est... ça dépend des plantes qu'on veut mettre, etc. La procédure, c'est du glanage quotidien, quoi. On récupère plein de choses dans la rue et on les transforme. En général, c'est vraiment sur le coup, en fait. On se dit, bah tiens, là il y a il y a une toilette, bah, on va la récupérer, elle est sur le chemin pour l'action, on va la récupérer, on va faire un truc avec. Donc c'est souvent quand même un peu sur le moment où on récupère les choses. Et après, bah, la terre, c'est souvent la terre aussi qu'on trouve sur place. Donc, bon, des fois, on achète un peu de terre ou quoi, mais on essaye de limiter un maximum. Du compost, etc. aussi, ça marche quand même bien. Et pour les plantes, ça dépend des... Par exemple, dans les chaussures, bon, on va en faire à l'atelier. Là, je ne sais pas si tu viens à l'atelier, mais le principe, c'est qu'on prend des plantes qui, pareil, n'ont pas besoin trop d'eau, qui sont résistantes au vent, qui n'ont pas besoin d'un système racinaire trop important, qui sont pas trop lourdes non plus, qui risquent pas trop de s'arracher, mais enfin, grosso modo, tu peux le faire avec n'importe quelle chaussure. Là, je parle des chaussures qu'on accroche plutôt dans les arbres ou dans les lampadaires ou sur les toits. Mais si tu la poses par terre, tu peux mettre un peu n'importe quelle plante. Pareil, ça on fait des petits ateliers, on en fait assez souvent, donc vous pouvez ramener des chaussures et on peut vous montrer comment on fait aussi pendant les actions, si ça vous dit. Ou d'autres choses, hein, d'autres contenants. On peut imaginer des trucs ensemble.
Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes en lien avec des choses comme graines de troc et faire des grainothèques, tout ça, pour un peu diffuser aussi les graines sans les acheter?
Oui. Bah,
est-ce qu'il est
on y participe. On n'a pas forcément le temps de faire la communication dessus, même si on aimerait bien. Mais par exemple, on a participé, il y avait une grainothèque, je crois qu'elle y est encore d'ailleurs à République. Donc là, vous pouvez ramener vos graines et les échanger. Nous, on en donne volontiers. Bon, là, le problème, elles sont dans mon sac, les graines, en fait, je viens d'y penser, dans le sac qu'on va faire l'atelier après. Mais sinon, j'ai des graines à donner. Nous, on en récupère pas mal sur les jardins qu'on a fait. Et sinon, après, y a des techniques. Il y a le marché aux oiseaux, vous pouvez trouver des graines pour pas trop cher. Sur les marchés, on peut trouver des graines, des plants, etc. Et après, il y a plein de techniques où on peut multiplier les plantes à partir de en faisant du bouturage, en faisant de la division. Donc ça aussi, on peut l'apprendre. Et bah, notamment, c'est un peu pour ça que j'ai rejoint l'association Pépin Production, qui est l'association où on monte des pépinières de quartier en ville. C'est aussi pour apprendre aux gens à multiplier des plantes. Et pour pas trop cher, quoi. Donc ça aussi vous pouvez participer.
Ok, merci.
On va peut-être laisser passer encore deux questions et puis ensuite bon, comme nous avons l'atelier derrière, il me semblait qu'il y avait une question par là.
Tout d'abord, merci pour cette conférence qui était vraiment aussi utile qu'agréable, je pense. Donc j'ai une question, une remarque. Donc pour suivre vos activités, vous avez une mailing list d'envoi pour l'information?
Après, c'est vrai qu'on n'en envoie pas énormément. Faut presque mieux m'envoyer un mail à moi directement, parce que mais on en envoie une par mois en général, quelque chose comme ça, pour prévenir des actions qui vont avoir lieu et des actions passées en général.
La deuxième chose, c'était une remarque par rapport à l'action de Liz Christie en 1973. En fait, j'avais assisté il y a 2 ans à une conférence sur la cuisine pendant la Première Guerre mondiale, qui était forcément affectée, qui avait lieu à l'école Boulle. C'était absolument remarquable, puisque à cause des rationnements, etc., entre autres, Paris était devenu une ville potagère. On a des archives photographiques qui le prouvent. Les gens cultivaient des haricots sur tous leurs balcons, ça grimpait de partout. Il y avait des potagers vraiment juste en face du Panthéon, ce qui est vraiment, vraiment très curieux, mais c'est magnifique en plus. Mais c'est pour dire que quelque part, ça dépend que de nous.
Ouais, après voilà, c'est des événements comme à Détroit où la ville où les gens se mettent à jardiner. Enfin, c'est souvent par des événements un peu précipités comme ça où on se met à se dire ah bah tiens peut-être qu'il faudrait qu'on se mette à jardiner, mais aussi on peut à jardiner, à faire pousser des légumes, mais on peut aussi se dire bah c'est quelque chose qu'il faut aussi commencer à faire maintenant quoi, et pas attendre d'être dans des périodes comme ça et où ça peut être 10 fois pire que ce qu'il y a pu avoir pendant la guerre. Enfin, j'en sais rien, mais je dis ça comme ça. Du coup, voilà quoi, il faut s'y mettre maintenant. Je pense que c'est pas. Je trouve ça bête, moi, d'attendre la dernière minute pour s'y mettre et se dire former tout le monde, ramener de la terre. Enfin, voilà, ça demande quand même un peu d'organisation et une prise de conscience aussi un peu généralisée, quoi.
Alors, juste une question pour finir. Est-ce qu'on peut avoir des graines si on ne veut pas rester à la deuxième session? On peut venir en chercher?
Oui, bah, si on va, oui, on peut aller, je peux aller en chercher là, mais après, sinon, vraiment, il y a des événements, on en fait assez souvent et on a des graines à disposition. Le 7 mai, on va au jardin afghan, il y a l'information qui est sur le site et on a un agenda aussi qui est à peu près mis à jour plus régulièrement que la newsletter que vous pouvez consulter. Donc c'est peut-être aussi le plus simple, ça dépendra aussi de ce que vous voulez faire comme jardin, ce que vous avez envie comme graines. Là moi je pense que j'ai des mélanges en fait de graines, j'ai un sac mais tout est mélangé, donc ça va être dur aussi de trier les graines si vous voulez un truc en particulier. Mais
en fait c'est pour faire des seed bombs.
Ouais.
Et en fait j'en parlais justement à la nuit de l'écologie.
Vous pouvez nous suivre tout à l'heure, je pourrais vous en donner.
Ok, merci.
Alors, je vais simplement faire un point pour les ateliers. En tout cas, merci Gabi pour cette conférence. Applaudissements.